France Culture.
Bonjour, je vous propose une nouvelle écoute d'une émission de France Culture qui a été diffusée pour la première fois le 28 juillet 2001, Les Vacances au 19e siècle, avec André Roche.
Concordance des temps, Jean-Noël Jacquet. Bonjour. Je ne sais pas combien de nos auditeurs ont lu et aimé dans leur enfance comme moi-même « Les Vacances », un livre important de la comtesse de Ségur. Et combien se rappelle ce dernier chapitre, chapitre 13, qui commence, on est en septembre, par cette phrase « Les vacances étaient près de leur fin, les enfants s'aimaient de plus en plus ». Nous sommes quelques-uns, je le sais, à nous souvenir de cette étrange mélancolie qui nous frappait au moment où Sophie de Rosbourg, Camille et Madeleine de Fleurville et aussi leur cousin Paul sentaient qu'allait se clore après plus de 2 mois avec la rentrée des classes, la précieuse parenthèse de leur liberté de l'été. On était en 1859, au cœur du Second Empire, dans le milieu étroit des aristocraties doucement déclinantes. Aujourd'hui, à l'heure des loisirs de masse, dont les statistiques paraissent contraster si violemment avec les chiffres étroits des vacances privilégiées du 19e siècle, on a envie d'aller rechercher dans ces pratiques anciennes les comportements, les rêves, les fantasmes auxquels continuent de faire écho nos aspirations contemporaines. Autrement dit, les permanences que dissimule parfois la dimension impressionnante de nos migrations saisonnières. André Roche, professeur à l'université Marc Bloch à Strasbourg et spécialiste reconnu de cette histoire, va m'y aider. Et j'invoquerai, bien sûr, comme parrain de cette émission, parrain discret de cette émission, Stéphane Mallarmé. Fuir, là-bas fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux.
Pour aller rejoindre mon idéal, aujourd'hui je veux m'offrir un petit voyage sentimental au pays des souvenirs. J'ai le cœur et l'âme d'un vagabond par un beau matin d'avril. Et pourtant que le retour semble bon après de longs jours d'exil. Voilà le train qui démarre, voilà que s'enfuit la gare. Déjà, chaque tour de roue m'a rapproché de mon clocher. Mon petit voyage sentimental par ces mille et cent détours me ramène à mon village natal où m'attendent mes amours. Je l'embrasserai près du vent de mousse qui vit notre baiser d'adieu. Sentirai-je encore une larme douce brouiller mes yeux? Pour aller rejoindre mon idéal, aujourd'hui je vais m'offrir un petit voyage sentimental au pays des souvenirs. J'ai le cœur et l'âme d'un vagabond par un beau matin d'avril.
Yvette Giraud, Petit voyage sentimental, 1946. André Roche, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous connaissez cette chanson?
Je la découvre avec vous ce matin, oui. Et puis elle est très évocatrice en ce sens que c'est vrai que nos vacances sont toujours marquées par le désir d'un retour à l'enfance, de revenir au plaisir du début de la vie. Et de ce point de vue, la chanson est très contemporaine.
C'est pourquoi je l'ai choisie, aussi en écho à ce que je disais tout à l'heure sur la comtesse de Ségur.
Oui, et elle ajoute par rapport à la comtesse de Ségur un élément que nous percevons, à savoir que ici le retour sentimental, c'est le retour à la campagne, autrement dit le retour à cette société française qui est encore une société rurale, qui était encore une société rurale, et la nostalgie qu'éprouve Yvette Giraud ici, c'est précisément celle aussi d'avoir abandonné le clocher, le village, bref. Cet environnement chargé des sentiments du souvenir.
Eh bien, nous voilà conduits d'entrée de jeu à une des thématiques importantes du livre que vous avez publié récemment et qui est consacré, André Roche, aux vacances en France de 1830 à nos jours. Et naturellement, ce sont des vacances au 19e siècle que nous allons parler aujourd'hui avec une réflexion sur leur rôle comme marqueur social, comme vous dites. Dans quoi les vacances sont révélateurs d'un certain équilibre des sociétés, des réalités et des rêves.
C'est un équilibre qui, au XIXe siècle, est subitement perturbé par le développement de la société industrielle, son avènement. Et il me semble qu'il s'agisse de la cure en bord de mer ou de la cure thermale ou du pèlerinage, dans tous les cas, il y a un dénominateur commun, à savoir le désir d'un retour aux sources, le désir de revenir vers les origines. Il me semble que de ce point de vue, le 19e siècle n'est pas seulement marqué par le romantisme et tout ce qui accompagne, on l'entend d'ailleurs dans la chanson, hein, l'amour, ce qui accompagne les passions du sujet.
L'amour comme rêve d'ailleurs, comme utopie, l'exotisme, tout ce qui accompagne la recherche de l'inattendu, c'est cette tension-là entre le retour en arrière, le retour aux sources et la quête d'un ailleurs, au fond, qui à vos yeux, caractérise cette sensibilité.
C'est à la fois cela, et pourtant vous dites deux choses en une.
Oui.
À savoir que le retour, prenons le voyage à Jérusalem, ou prenons...
Le Chateaubriand.
Voilà, ou l'ensemble d'ailleurs des voyages en Orient, c'est pas un ailleurs, c'est un avant. Autrement dit, il y a l'idée du pèlerinage, l'idée de revenir à des vérités premières, et surtout à des témoignages premiers. Alors que l'utopie de l'exotisme, de l'ailleurs, c'est un vagabondage qui nous conduit vers quelque chose de totalement inconnu. Et je ne suis pas certain que le 19e siècle soit tellement marqué par ce désir d'un inconnu. Bien sûr, il existe, mais il est moins fort sans doute que pour nous au 19e siècle, lorsque nous voulons visiter l'Extrême-Orient ou l'Amérique du Sud ou telle île complètement inconnue, etc.
Plus des retrouvailles que de la découverte, c'est ça que vous
voilà,
dites.
Voilà, oui, oui.
Et en même temps, à notre époque aussi, on est très frappé par l'aspiration au retour aux sources. On a beaucoup noté depuis 20, 30 ans le succès de tous ces livres qui évoquent les origines rurales de nos contemporains urbanisés de force, et aussi souvent la part conservée par les vacances à la campagne par rapport aux vacances lointaines dans les habitudes de nos contemporains.
Je crois que de ce point de vue, les vacances au XXe siècle sont, comme vous le disiez tout à l'heure, un marqueur. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est complexe, une société qui est composite, et peuvent coexister différents imaginaires. Car les vacances, c'est d'abord dirigé par l'imaginaire, par le rêve. Et de ce point de vue, la chanson le montre bien. Au XIXe siècle, il me semble que c'est plutôt lorsque la société française ou la société européenne est entraînée par la société industrielle, par l'idée du progrès industriel, que les vacances, qui sont, je crois, surtout illustrées par l'ancienne aristocratie, les vacances cherchent à revenir à des valeurs antérieurement établies. Elles sont nostalgiques du passé.
Mais la comtesse de Ségur représente bien une société d'aristocrates qui était exilée de l'intérieur au moment du Second Empire,
voilà,
et qui se tourne vers le passé. Vous nous dites qu'au fond, ces retrouvailles sont plus importantes au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Elles sont pourtant actuellement également très, très présentes dans les sensibilités et les comportements. Des gens qui ont recherché leurs sources, retourné à la ferme, la quête des origines rurales.
Toutefois, j'ajouterais qu'aujourd'hui, c'est marqué par le sentiment, non pas du pèlerinage, mais de la croisade. À savoir que l'ensemble du mouvement écologiste est animé du désir de réagir contre un certain nombre d'excès, que bien sûr je ne juge pas, mais que l'on peut effectivement souligner. Et par conséquent, qu'il y a un devoir. Je ne veux pas dire que c'est un devoir de vacances au sens scolaire du terme. Je veux dire qu'il y a un devoir de préserver les sites, de préserver les temps aussi. Je veux dire par là un certain usage de la temporalité sur laquelle a travaillé Alain Corbin. Et de ce point de vue, de rétablir un mieux vivre alors que nous sommes menacés par la vitesse, par le progrès, par, vous disiez tout à l'heure, le tourisme de masse et ses effets voulus ou non désirés, bien sûr. Donc, selon moi, ce n'est pas le pèlerinage, c'est la croisade. Oui. Mais dans les deux cas, évidemment, nous sommes dans la religion.
Hein. Bien sûr, mais est-ce qu'on ne trouve pas déjà au XIXe siècle ce mythe d'un âge d'or, ce désir de retrouver une antériorité avec l'apparition des premières fumées dans les trains, dans la campagne? Est-ce que c'est présent chez les auteurs, chez les témoins?
Alors, vous avez raison, c'est présent, c'est surtout très 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 présent à la fin du siècle, et en particulier dans la littérature de Loti ou chez la comtesse de Pange. Et c'est intéressant de voir comment ces auteurs, lorsqu'ils voient apparaître les nouveaux touristes, qui en général sont des Anglais lorsque ils visitent l'Égypte ou telle partie de l'Orient, ils ont véritablement l'impression que ces touristes qui viennent en masse, en général, ce sont des groupes mixtes, hommes et femmes. D'autre part, ce sont des gens qui parlent très fort, qui passent extrêmement vite. D'où cette idée que le lieu du pèlerinage a été, d'une certaine façon, profané.
Oui, vous citez dans votre livre, André Roche, des textes tout à fait frappants de Loti, qui s'en prend à ces véritables souverains de l'Égypte moderne, Thomas Cook and Son, les organisateurs de voyages. Ils fustigent la horde débraillée qui saccage les temples de l'ancienne Égypte. En écrivant, le lynche est achevé, la bande va repartir à l'heure militaire du programme. Ils se remettent en selle, les cooks, les cookesses, les clients de Thomas Cook. Là, derrière la pyramide de Khéops, un vaste hôtel s'est blotti où fourmillent des snobs, des élégantes, follement emplumées, comme des peaux rouges pour la danse du scalp. Des malades en quête d'air pur, jeunes anglaises phtisiques ou vieilles anglaises un peu gâteuses traitant leur rhumatisme par les vents secs. On est à la fin du 19e siècle, dans ce texte de Loti, La mort de Filet, et on y trouve tous les stéréotypes.
D'abord, on y trouve un stéréotype qui nous fait frémir, c'est celui de la misogynie. Qui est d'une intensité, d'une violence rare.
Qu'on retrouve chez beaucoup de voyageurs du XIXe siècle, Flaubert et les autres, lorsqu'ils se retrouvent en Orient.
Oui, exactement.
Pas seulement du côté des lupanards, sont très misogynes.
Oui. Et d'autre part, cette idée qu'une fois que les lieux saints sont occupés par d'autres préoccupations que le recueillement, la méditation, le désir d'être en quelque sorte traversé par l'inspiration que le lieu doit favoriser, ces hordes passent à grande vitesse, bruyamment, et d'une certaine manière, ce sont des vandales. Il y a dans le texte de Loti, sur lequel je n'émettrai pas de jugement de valeur pour l'instant, hein, il y a dans le texte de Loti une sorte d'avertissement, à savoir que le pèlerinage, cette forme de voyage qui relève de la méditation, est peut-être arrivé à son terme.
Je me souviens qu'il y a quelques années, Jacques Julliard, dans une de ses chroniques du Nouvel Observateur, avait publié un cri d'inquiétude, d'angoisse, presque de haine à l'égard de ces troupeaux de touristes qui se retrouvaient sur l'Acropole, et qui lui paraissaient de la même façon gâcher le plaisir, le bonheur un peu élitaire du contact qu'on peut avoir avec ces lieux de grande histoire. C'était pas très correct politiquement, et ça avait fait quelques bruits, mais cet écho-là m'avait frappé.
Mais c'est exact que le tourisme de masse pose un problème relativement, un problème politique face auquel nous sommes confrontés, à savoir que lorsque moi j'y suis personnellement, je trouve cela naturel, mais lorsque les autres s'y ajoutent, je trouve qu'ils sont en excès. Mais il faut dire aussi que le tourisme de masse suppose, je crois, un aménagement, une politique touristique qui doit comprendre une certaine précaution, autrement dit, qui doit permettre une culture large, car les vacances c'est aussi un moment de culture. Et pour cela, aménager les sites et les lieux.
Mais là, on est vraiment en violent contraste avec une certaine idée du voyage qui est celle du 19e siècle dominant, notamment du côté des écrivains, du côté des poètes. On voit le voyage comme une façon de s'échapper seul ou parfois à deux.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. Sa douce langue natale. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et vol.
On a reconnu, bien sûr, l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, interprété, porté par Léo Ferré, 1957. André Rauch, il me semble que nous avons là ramassé la plupart des thèmes qui viennent nourrir l'aspiration au dépaysement entre réalité et métaphore au XIXe siècle.
Elles sont ramassées, elles sont dépassées. Je veux dire par là que, effectivement, la volupté, l'Orient, qui est un mythe fascinant au 19e siècle. Je ne parle pas seulement de Delacroix, de Géricault, mais le 19e siècle est vraiment fasciné par un Orient d'ailleurs qui n'est pas précis, qui peut commencer à Istanbul et aller jusqu'en Espagne.
Les Saint-Simoniens aussi, voilà, fasciné par l'Orient, l'Égypte.
Et c'est un Orient qui est complexe, qui est à la fois, comme on le disait tout à l'heure, un Orient de recueillement, et qui ici est un Orient de volupté, donc de péché, et en même temps de salut. Toutefois, dans ce que nous venons d'entendre, on sent la présence de toute la sensualité du voyage, une sensualité qui est composée à la fois des odeurs, de l'ambre, de ce que l'on voit, donc les miroirs profonds.
Des couleurs.
Des couleurs, oui, oui. De ce point de vue, il y a véritablement un dépassement, un enrichissement de ce que, depuis le début d'un 19e siècle qui est marqué par le romantisme, on trouve à ce moment-là. Et puis, évidemment, ce qui nous porte encore aujourd'hui, à savoir que le vrai voyage, même pour nous, ce n'est pas le charter, ce n'est pas l'avion, c'est les vaisseaux. Oui, c'est les vaisseaux qui partent.
Voit sur ses canaux dormir ses vaisseaux dont l'humeur est vagabonde.
L'idée du vagabondage, autrement dit, d'un chemin qui n'est pas tracé, d'une destination qui n'est pas fixée, d'un itinéraire qui se fait au gré du désir, c'est essentiel à ce voyage-là.
Avec le contraste toujours marqué par rapport à cette société industrielle dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la cité sombre, la cité noire, ça renvoie à un autre poème fameux de Baudelaire, « Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité.
» Et le dernier, oui, vous venez de souligner le fait que le voyageur, aujourd'hui le vacancier, est quelqu'un qui part. D'ailleurs, on ne parle pas des vacances, on dit du départ en vacances. Hein. Autrement dit, qui tourne le dos à quelque chose. Et en l'occurrence, à la société industrielle, sans doute. Il y a un autre aspect, à savoir que le moment du voyage est un moment de séduction. Je n'arrive pas très bien à savoir si ici, il s'adresse à une femme qu'il séduit, ou s'il est lui-même séduit par un vaisseau, ou si c'est le vaisseau qui l'entraîne dans la séduction. Il y a un jeu merveilleux.
Mon enfant, ma sœur.
Oui.
Mon enfant, ma sœur, c'est lui-même.
Je ne pourrais pas me prononcer car je crois qu'on est constamment dans les équivoques. Et c'est ce qui fait le charme de ce voyage, à savoir que d'une certaine manière, dans ce travail de séduction, il y a aussi peut-être celui d'une conquête douce. Le voyageur est un conquérant.
Oui, le voyage équivoque, André Rauch, oui, ce serait peut-être une opposition à faire. Ce voyage équivoque donc, riche de potentialités inattendues, qui s'opposerait au voyage contemporain dont tout l'effort est d'être précisé, dessiné, préétabli, notamment par les marchands de voyage.
Voilà, je crois que c'est cette présence de l'aventure que, bien sûr, le voyage organisé, d'une certaine manière, réduit. Toutefois, on peut avoir des aventures de tous ordres dans un voyage organisé, je le souhaite. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le sentier est ici plus important que la quatre voies, la crique, qui est peut-être plus séduisante que le port à côté de où les bateaux sont alignés les uns à côté des autres, et sans doute que d'une certaine manière le vol de l'oiseau est plus suggestif que celui du charter.
Bon, les vaisseaux. Alors, ça nous conduit sûrement à une réflexion sur l'évolution des lieux de villégiature. Je voudrais que nous arrêtions un instant dans ces villes d'eau qui au 19e siècle ont tellement compté dans la définition de la nouvelle apparence des vacances.
Effectivement, l'eau au 19e siècle est plus important que le soleil. Le 20e siècle, de ce point de vue, est fasciné par le soleil, ou le 21e siècle. Nous n'imaginons pas des vacances sous la pluie. Pourtant,
on s'en protège au contraire.
Voilà, on s'en protège, on redoute le soleil. D'ailleurs, les personnes qui sont allées, on ne dit pas bronzées, manquent un peu de dignité du point de vue de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. Le XXe siècle, en revanche, adore le soleil, alors que nos grands-parents ont prié pour qu'il pleuve en été de façon à ce que les moissons poussent. Hein. Revenons à la question, à savoir quel est le rôle de l'eau. Tout d'abord, l'eau est un élément naturel. Donc, il y a dans le choix de la ville d'eau, que ce soit Dieppe, que ce soit Boulogne, que ce soit Luc-sur-Mer, Trouville ou Deauville, etc., jusqu'à Biarritz, l'ensemble des côtes de la Manche et de l'océan sont de ce point de vue envahis d'abord par les Anglais, puisque ce sont les Anglais qui ont donné le modèle. Puis ensuite par une aristocratie majoritairement française, souvent parisienne, qui se rend sur un lieu de cure précisément pour se ressourcer.
Il faut prendre les eaux, ça fait partie de la vie mondaine.
Cela fait partie de la vie mondaine.
Alors, il y a Bath et Brighton en Angleterre, Spa en Belgique, Baden en Allemagne, Karlsbad aussi, qui était tellement fréquenté par Clémenceau, par exemple, avant 1914, Boulogne, Dieppe, et puis Biarritz et la Côte d'Azur. Quand on regarde Nice, ce qui frappe, c'est que il y a une évolution de ce point de vue-là de l'usage de Nice d'un siècle à l'autre.
Oui, je ne confondrai pas au XIXe siècle Nice avec, par exemple, Biarritz ou Dieppe. Hein.
Oui.
Car jusqu'à la fin du siècle, et Marc Boyer va le montrer dans un livre qui paraît prochainement sur Passer l'hiver sur la Côte d'Azur, jusqu'à la fin du siècle, on se rend à Nice pour passer des hivers doux. Et dès que les chaleurs apparaissent, à ce moment-là, on quitte la ville pour éventuellement se rendre vers la Provence ou vers les Alpes-Maritimes.
Les Anglais de la promenade des Anglais sont des Anglais d'hiver.
Alors la promenade des Anglais s'appelle ainsi parce qu'elle est sur le modèle de ce que vous évoquiez tout à l'heure au Brighton. Mais c'est pas parce que les Anglais l'ont construite, c'est parce qu'elle est
non,
sur ce modèle-là.
Bien sûr, c'est plutôt des loisirs d'hiver. Donc, comme
vous oui, ce sont des loisirs d'hiver ou d'automne ou de printemps. Et la Côte d'Azur telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle se développe grossièrement après la Première Guerre mondiale, elle est sur un autre modèle, elle est sur le modèle de la Californie.
Ah oui,
c'est la petite Californie.
L'Amérique,
oui.
Là comme ailleurs, la prépondérance américaine remplace la prépondérance anglaise.
J'aurais tendance à l'interpréter de cette manière-là, d'abord
c'est une métaphore de notre XXe siècle. Oui. La végétation
est semblable, donc l'importance du palmier, d'un type de palmier d'ailleurs qui n'est pas traditionnel, et puis l'aménagement des petits ports, des marinas, etc. Ce sont des innovations qui tiennent à cette influence de l'Amérique. J'ajouterais que le fait que la Côte d'Azur ce soit surtout un espace d'été, cela est tout à fait neuf. Pour dire les choses grossièrement, je dirais que le XXe siècle a inventé l'eau chaude.
Soit alors qu'effectivement, le monde des curistes que nous évoquions au XIXe siècle, là, c'est vraiment très loin de nous, car c'est un univers de petits nombres, un univers de privilégiés, où la recherche d'une meilleure santé se confond très directement avec l'agrément du séjour, l'oisiveté. Je relève qu'Hippolytène décrit ainsi la vie du curiste en 1855 dans les Pyrénées. Les jours de soleil, on vit en plein air, une sorte de préau qu'on nomme le jardin anglais, toujours l'Angleterre, s'étend entre la montagne et la rue, tapissé d'un maigre gazon, troué et flétri. Les dames y font salon et y travaillent. Travail à quoi? Probablement des travaux de couture. Les élégants, couchés sur plusieurs chaises, lisent leur journal et fument superbement leurs cigares. Les petites filles, en pantalon brodé, ça c'est la comtesse de Ségur, babillent avec des gestes coquets et des minauderies gracieuses. Voyage aux Pyrénées d'Hippolytène, 1855.
Oui, le texte ne manque ni d'humour ni d'ironie. Je crois qu'il y a quelque chose de piquant dans le choix du tableau. Effectivement, ce qui, en quelque sorte, nous distingue profondément du XIXe siècle, c'est que pour nous, les vacances sont c'est un moment d'activité. C'est un moment où on fait quelque chose. Alors que le XIXe siècle, très aristocratique de ce point de vue, se distingue par le fait d'être de loisir, par le fait d'être oisif, par le fait, d'une certaine manière, d'arrêter le temps. pour ce moment-là. Et puis d'autre part, vous l'évoquiez il y a un instant, il faut situer l'importance de la santé dans la cure thermale, la cure balnéaire. Se dire que si on choisit l'eau froide, c'est parce que l'eau froide a une fonction revigorante. Georges Vigarello l'a très largement souligné dans plusieurs de ses livres. Et le bain à la vague, le bain à la lame, est une épreuve terrible, puisque la personne qui s'y soumet est en quelque sorte exposée comme ça à une lame qui vient de l'océan. Elle est dans les bras d'un maître baigneur, et lorsque elle a subi deux ou trois assauts, c'est fini pour la journée, voire pour la semaine, car on ne se prélasse pas dans l'eau comme aujourd'hui au 19e siècle. D'une certaine manière, d'ailleurs, on redoute encore l'eau. Elle peut être porteuse de maux très, très profonds, puisqu'on n'est pas certain que la peau nous mette totalement à l'abri de l'agression de l'eau.
Mais l'évolution du bain de mer est en soi un sujet passionnant, ses rituels, ses pratiques, les inquiétudes et en même temps les attraits cachés que tout cela charrie.
Oui, tout à fait. De même que le séjour sur la plage, il y a des planchers, des layons. On n'est pas à même les cailloux, puisqu'il s'agit de Dieppe, on n'est pas à même les galets, ni à même la plage de sable lorsque l'on va à Trouville ou ailleurs.
Comme Deauville aujourd'hui d'ailleurs.
Voilà.
Toujours là.
C'est de ce point de vue, une architecture ici est différente, et puis une architecture nous donne des indications sur la valeur curative de la présence en bord de mer.
Ça renvoie à Boudin, par exemple, l'ensemble de ces tableaux qui décrivent un monde en effet tout à fait disparu, longtemps, longtemps, longtemps avant les congés payés.
Oui, avec des traits qui nous montrent ces espaces très, très ordonnés, où les distances sont respectées, qui ne sont pas des distances géographiques seulement, qui peuvent être des distances sociales, car les curistes sont isolés du reste du monde.
C'est la solitude contre la promiscuité d'aujourd'hui, autre contraste. Oui.
Ah oui, oui.
La recherche de la différence, de la sélection.
Oui. Qui tient aussi...
Du rare.
Voilà, oui. Mais qui tient aussi à un rapport au corps très différent.
Oui, en quoi ?
En ce sens que le baigneur est quelqu'un qui recouvre son corps, à la fois parce que on craint par la nudité de prendre froid, par exemple, mais aussi parce que on ne veut pas être vu. D'où tout un rituel sur la manière d'accéder à l'océan grâce à des chariots dans lesquels les personnes vont se déshabiller, et puis le port d'un vêtement qui en général recouvre l'ensemble du corps, et où l'esthétique est complètement absente. On n'a pas du tout l'idée qu'on pourrait plaire avec ces vêtements-là.
Ah, oui, avec le début tout de même déjà de suggestions. Les hauts talons lutte-tête avec les longues jupes, nous dit Verlaine, c'est bien sur la plage.
Oui, mais c'est peut-être parce que le scandale est déjà présent.
Alors voilà, nous avons considéré les lieux où on partait au 19e siècle. Il est intéressant de savoir comment on partait, avec quels moyens de transport. Et il faut que nous arrêtions un instant sur le rôle fondamental du train qui va jouer un rôle pour définir ces vacances dans toutes leurs dimensions.
Sur l'ouest est la dernière mort, tout doucement. J'ai fait un voyage d'agrément, tout doucement. Un facteur prend mon fourniment, tout doucement. Et le porte à l'enregistrement, tout doucement. On le barbouille immédiatement, tout doucement. De col de pâte et de bulletin blanc, tout doucement. Puis le train part tout doucement, et zut, s'arrête au bout d'un moment. On avait oublié seulement une dizaine de compartiments. On revient chercher ses tirs au flanc, tout doucement. Et l'on repart pour rattraper le temps, tout doucement. Bientôt le mécanicien descend, tout doucement.
pour satisfaire un besoin pressant. Tout doucement, toutes les vaches du pays normand. Tout doucement, regardez le train en rigolant. Tout doucement, et les pivots disaient maman. Tout doucement. Crois-tu qu'ils ont l'air bête là-dedans? Tout doucement. Les voyageurs pendant.
Un enregistrement de 1911. Vive l'Express de Normandie. C'est une chanson interprétée par Lucien Boyer, qui nous installe bien à la jonction entre ce 19e et ce 20e siècle André Rauch, et qui, tout doucement, pose directement la question centrale de la vitesse.
Oui, c'est d'ailleurs une chanson étonnante, car le train au 19e siècle, donc à partir des années 1830-1840, est au contraire ce qu'on pourrait appeler le modèle de la vitesse, le modèle qui s'oppose à la lenteur. C'est un mouvement de civilisation très profond, hein. On ne s'en rend plus tout à fait compte aujourd'hui. Mais au 19e siècle, et Christophe Stuny l'a bien montré dans son ouvrage L'invention de la vitesse, publié chez Gallimard.
Bibliothèque des histoires de Pierre Nora, oui.
Oui. Le travail de l'artisan au 19e siècle, s'il est bien fait, il est fait lentement. De la même manière, le paysan qui lit les gerbes de blé, s'il va vite, c'est du travail gâché. En ce sens, il y a dans l'ancienne France un privilège de la lenteur qui montre le soin que l'on apporte à la tâche, qui éventuellement signale tout ce qu'il peut y avoir de méticuleux, de ce qu'il peut y avoir de précis. Alors que l'introduction de la vitesse, qui sera une des grandes valeurs du 19e et du 20e siècle, pensez aujourd'hui au mythe du TGV pour les Français lorsqu'ils traversent l'ensemble de la France en 4 heures.
Mythe plus fort d'ailleurs en France que même que chez nos pays voisins.
Vous avez raison de souligner que c'est là un trait extrêmement propre aux Français que de valoriser l'empressement, alors que je crois les Allemands ou les Américains préfèrent avoir un train plus confortable et qui va un peu moins vite et on a plus de temps. C'est quelque chose qui me frappe.
Éloge de la lenteur.
Éloge de la lenteur.
Oui, avec la vitesse, on est là au cœur d'un thème très très important pour différencier ces vacances du 19e et celles du 20e. L'idée de la frénésie. En même temps, c'est bien le 19e siècle qui nous parle du tour du monde en 80 jours de Phileas Fogg avec Jules Verne. C'est la première fois, en effet, qu'on marque cette sorte de frénésie d'arriver plus vite, toujours plus vite.
Et d'une certaine manière, de nier le voyage pour lui substituer l'idée du déplacement. Et en ce sens, on voit lorsque les premières lignes partant de Paris se rendent vers Caen et vers les plages de la Normandie, puis les plages de la Bretagne, on voit que certaines stations qui sont à l'écart de la ligne de chemin de fer pâtissent précisément de cette absence de la voie ferrée. Je pense en particulier à Houlgate, qui pendant une vingtaine d'années va voir sa clientèle sinon stagner. En tout cas, ne pas progresser à la même vitesse que Courseul ou d'autres stations.
Oui, la fin de semaine, c'est de 1848, tout début de la Seconde République, que sont inaugurés les trains de plaisir de Paris vers Dieppe. Et vous vous rappelez au début de la vie parisienne d'Offenbach, livret de Meillac et Halévy. Première scène se passe précisément à la gare. On attend le train de Trouville qui a du retard.
Oui, il a du retard, donc d'une certaine manière, on est déjà dans cette idée que le temps est compté, que nous entrons dans un temps qui, de ce point de vue, doit être épargné, doit être économisé, qu'on ne peut pas le gâcher, et que le fait que le train arrive en retard, d'une certaine manière, apparaît déjà comme un manquement. Alors que sans doute une dizaine ou une vingtaine d'années auparavant, on n'aurait même pas pensé qu'il était en retard, on aurait été content qu'il arrive.
Le fameux train des Maris vers la Normandie est inauguré en 1871.
Alors ce train des maris, parfois on lui a donné d'autres qualificatifs.
Je vous laisse le dire.
Donc le train des maris.
Vous ne le dites pas.
Ou le train jaune.
jaune couleur du cocu, disons-le.
Oui, voilà, oui. Ce qui montre bien d'ailleurs de ce point de vue la misogynie de ces hommes qui soupçonnent leurs épouses ou leurs compagnes de les trahir lorsqu'ils ne sont pas présents. Donc le train des maris permettait aux hommes, et en particulier aux hommes d'affaires, de rejoindre leur famille en fin de semaine. Et sa ponctualité, l'heure du départ, qui correspond à l'heure de la fin du travail, est ici déjà calculée. C'est quelque chose qui restera très présent, même encore au XXIe siècle, lorsque la réduction du temps de travail, nous concevons une fin de semaine prolongée. Bien souvent, nous la calculons par rapport à un départ qui peut se faire en fin d'après-midi. De ce point de vue, le rapport entre le temps du travail et le temps du loisir est quelque chose sans quoi nous ne pouvons pas penser les vacances. Cette société du 19e siècle, précisément, va inventer le partage entre le temps du loisir et le temps du travail, va inventer cette idée que quand on est au travail, on n'est pas de loisir, et que de ce point de vue, tout ce qui relève d'un événement inattendu, d'une lassitude, d'une visite, etc., tout cela doit s'arrêter face précisément à l'impératif du travail. En revanche...
Une opposition tranchée, finalement, entre le loisir et le travail, qui renvoie, après tout, à la Rome antique, le osium et négocium, le temps du loisir, avec également des distinctions sociales, puisque c'est l'aristocratie au sens propre, ou l'aristocratie des rentiers, qui peut avoir le luxe de ne pas distinguer le temps des loisirs et le temps du labeur.
Oui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est une aristocratie de rentiers, donc de gens qui ne vivent pas de leur travail, mais de leur rente, qui donnent le modèle. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, puisque vous venez de le souligner, le train des maris n'est pas occupé par les rentiers. Mais la grande bourgeoisie s'inscrit dans un modèle qui est prédéfini, en quelque sorte, par cette aristocratie, qui invente les loisirs au moment où elle perd le pouvoir politique. Jean Viard, de ce point de vue, dans son ouvrage « Penser les vacances », insiste sur cet aspect-là, qui, je crois, permet de comprendre... La profonde différence qui nous sépare aujourd'hui de ce 19e siècle.
On peut d'ailleurs éclairer sous cette lumière le fait que, tout en hâtant leur voyage, comme vous venez de le dire, on tourne toujours autour du thème de la vitesse, les privilégiés qui voyagent continuent à marquer qu'il s'agit d'expéditions extraordinaires. Je relève dans les mémoires de la comtesse de Pange, consacrée à 1900, cette formule. Bien que le trajet de Paris à Dieppe ne fût que de 4 heures, on s'installait comme pour aller en Chine. On emportait plusieurs paniers de provisions et toute une batterie d'ustensiles dits de voyage, des couverts pliants, des timbales qui s'aplatissent comme des chapeaux à claques, des flacons de sel, d'eau de Cologne, d'alcool de menthe, des éventails, des châles, des petits coussins en caoutchouc dont la vue seule me rendait malade. Dans le train d'aujourd'hui, les jeunes gens avec juste une brosse à dents et un blue jean, on en est loin.
Oui, c'est très intéressant. Ça me fait penser à cet ouvrage publié chez Autrement qui vient de paraître et qu'a dirigé Julia Sergo, qui s'intitule « Le casse-croûte ». Et on y parle du pique-nique. Comme vous venez de le rappeler à l'aide de cette citation, le pique-nique, c'est un repas. Le pique-nique, c'est un repas qu'on prend ailleurs que dans le salon. On le prend dans le train,
oui.
Mais on n'en change pas du tout le cérémonial. Et de ce point de vue, lorsque nous engloutissons un sandwich, c'est effectivement une grande séparation. Je crois que le sandwich est aussi une invention qui n'est pas française.
En effet, coupure ou continuité, on retrouve ça toujours dans les trains, dans les gares. Écoutez ce document du 1er août 1958, il y a un peu moins d'un demi-siècle. Nous sommes à la gare de Lyon.
Voici un groupe de personnes qui, j'en suis persuadé, partent en vacances. Est-ce que je me trompe, monsieur? Est-ce que vous partez en vacances?
Moi, non, mais j'ai ma mère, mon frère et ma sœur.
Alors, vous les accompagnez, vous restez ici?
Oui, oui, je partirai dans 8 jours.
Et ça, c'est madame votre mère?
Monsieur.
Bonjour, madame. Alors donc, vous partez dans quelle direction?
À Bonneville, Haute-Savoie.
Vous connaissez déjà la région?
Oui, ça fait depuis 1949 que nous faisons du camping.
Ah bon, mais vous êtes native de là-bas ?
Non, pas du tout. C'est des amis que nous avons faits et c'est vraiment des gens très sympathiques.
Mais vous campez ou...
Nous campons dans une ferme depuis 9 ans, depuis 1949.
Et dans quel site, enfin, dans quel décor ?
Dans le décor familial, dans ces gens-là.
Ah bon, mais
c'est des montagnards. La montagne qui se trouve sur le flanc de la colline, c'est le Moule. Il y a un point culminant qui domine le lac de Genève, la chaîne du Mont Blanc, le col de la Colombière, la pointe des Andailles, Mont-Saxonnet.
Colombière. Est-ce que vous savez qu'à Colombière, il y a un petit vin blanc qui est très bien ?
Très bien. Le Haïs aussi, je le renomme parce que c'est un bon petit vin de pays. Et il est très renommé en Haute-Savoie.
Vous m'avez l'air de... Et puis en Suisse.
Vous m'avez l'air de vous y connaître pas mal.
Oui.
Eh bien, madame, je vous souhaite d'excellentes vacances.
Monsieur.
Et à votre fils, la patience d'attendre encore 8 jours pour vous rejoindre.
Merci.
Oui, merci bien, monsieur.
On est le 1er août 58, passage de la 4e à la 5e République. Sur la radio d'État, le journaliste était Tony Franklin. C'est une scénette, on voit assez bien les personnages, André Roche, surgir.
Oui, à noter que c'est aussi à partir de 58 que se développe en France le tourisme de masse, hein, ce qui n'est pas négligeable pour comprendre l'évolution la plus contemporaine. C'est un tableau, vous avez raison. Autrement dit, cette idée que du Môle, on a un spectacle, s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la construction des panoramas, la construction des paysages. Autrement dit, la construction d'un pays par rapport au regard. Le fait qu'il soit conçu, qu'il soit aménagé pour permettre le regard. En ce sens, le vacancier est un spectateur, est quelqu'un qui regarde. À la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle, le vacancier est un acteur. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui s'agite d'une certaine façon.
En même temps, il a comme son prédécesseur du XIXe siècle à la main cet ouvrage que constitue le guide de voyage, dont l'évolution est en soi un sujet passionnant de curiosité. Ça, nous avons, dans une émission antérieure, vu qu'il y en avait déjà l'esquisse de guide de voyage au Moyen-Âge, avec Jacques Berlioz. Mais enfin, les guides de voyage apparaissent véritablement au début du XIXe siècle. Le Baedeker.
Oui, il est précédé d'ailleurs par un guide anglais, encore une fois, qui s'appelle le Murray.
Oui.
Puis le Baedeker, qui est allemand. Et le guide Johann, français, qui donnera ensuite le guide bleu. Hein.
Qu'est-ce qui frappe si on regarde ces ouvrages par rapport à ceux d'aujourd'hui ?
Il faut concevoir ces ouvrages un peu comme un manuel de classe.
Impérieux.
C'est un manuel de voyage. Et il est assez curieux à regarder, car il est conçu pour être lu dans le train. Autrement dit, une partie du voyage sera décrite à partir du train. On vous indique ce que vous pouvez voir par la fenêtre.
Avec l'indicateur des chemins de fer dans l'autre main.
C'est cela, voilà.
Le Chex.
Et dans un deuxième temps, il y a, lorsqu'on arrive à la gare, le problème du logement, donc qui va se résoudre grâce au guide, puisqu'il indique les hôtels, les restaurants. Autrement dit, il est un manuel qui se substitue à ce que pourrait être un guide vivant, en chair et en os, si vous voulez. Ici, c'est un guide en papier.
On trouve encore dans beaucoup de guides d'aujourd'hui la mention, si vous avez un jour à consacrer, faites ceci, si vous pouvez... dépenser 3 jours. Alors, faites cela.
Oui, mais les guides d'aujourd'hui sont fort différents, car le XXe siècle, la fin du XXe siècle, conçoit le voyage sur le mode d'une consommation, donc sur le mode de ce que l'on peut acheter, de l'argent que l'on peut dépenser. Et par conséquent, nos guides sont davantage axés sur le restaurant pas cher, moyen, prix plus élevé, plus luxueux, etc., ou l'hôtel, etc. Alors que le Johann ou le Baedeker a cette caractéristique, c'est qu'il a été traduit dans plusieurs langues. Et de ce point de vue, c'est ce qui lui a permis de s'imposer en Europe. Donc le Johann ou le Baedeker sont davantage des guides culturels qui indiquent une histoire, qui indiquent des monuments, qui précisent ce que tel ou tel monument a subi au cours des âges, en sachant d'ailleurs que la plupart du temps, lorsque il y a eu une guerre ou lorsqu'il y a eu une révolution, d'une certaine manière, c'est une dégradation de la civilisation puisque le monument échappe aux touristes à ce moment-là.
Oui. Et au fond, la mutation d'un guide à l'autre, elle se dessine avec l'apparition du guide Michelin au début du XXe siècle, inventé par un des frères de la famille fondatrice des des pneus Michelin, des pneumatiques, et qui est directement lié à l'apparition de l'automobile, qui est une autre, évidemment, grande différence entre le 19e siècle et aujourd'hui. Un guide rouge destiné à donner beaucoup d'indications très concrètes, très pratiques, où on peut changer ses pneus, où on peut dîner, coucher. C'est beaucoup moins présent dans les guides plus élitaires du 19e siècle, si je comprends bien.
Oui, il y a ce que vous venez de souligner. Il y a aussi le passage du train à la route, de la voie ferrée à la route. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, les guides sont conçus par rapport au voyage en train. Le guide Michelin, lui, d'une certaine manière, invente la route. Il inventera même des routes rouges, des routes jaunes, etc. Le guide Michelin, après la Première Guerre mondiale, va même inventer, en quelque sorte, la gastronomie. Donc, à l'instant, vous venez d'entendre les vins du pays. Eh bien, il y aura organisé par les guides Michelin des concours de restauration, des concours de dégustation qui vont permettre de donner aux touristes des indications sur les bons lieux.
C'est une des tonalités nouvelles des vacances contemporaines.
Hop tigili, hop tigili, boum, quand revient l'été, boum, revient la gaieté, boum, on l'a mérité. Hop tigili, boum, la route est fleurie, partons loin de Paris. Vive les vacances et le beau mois de juillet. Partons vers les œillets de Nice ou du Canet. Au rayon du soleil, on va se pavaner. Sur les plages, nous allons flâner. Oh, hop tigili, hop tigili, boum, quand revient l'été, revient la gaieté. On l'a mérité. Hop tigili, boum, la route est fleurie. Partons loin de Paris.
C'était extrait d'une émission de Mireille. Une variation sur les vacances à partir d'une musique d'Emmanuel Chabrier. André Roche, il faut que nous terminions comme nous avons commencé, c'est-à-dire sur les vacances comme révélateur d'une identité collective, éventuellement comme quête d'une identité individuelle.
Oui, et ça le sera de plus en plus avec la réduction du temps de travail. Autrement dit, je suis assez frappé du fait que... très longtemps, pendant au moins un siècle et demi, les hommes, mais aussi les femmes, mais surtout les hommes, se sont identifiés à partir de leur profession. Et la réduction du temps de travail pousse peut-être à une identification autour des passions individuelles.
Le club méditerranéen, au fond, mêle des gens qui, parfois, n'apprennent leur profession respective qu'au retour, dans l'avion de retour.
Dans son utopie, oui, mais je pense qu'il n'a pas mêlé toujours avec ce brassage auquel on pourrait penser. Toutefois, il est un bon indicateur, à savoir que les individus doivent affirmer leur personnalité dans le fait de savoir occuper leurs loisirs. Et de ce point de vue, d'être un amateur, par exemple, de voyage, ou un amateur de plongée sous-marine, ou un amateur de voile, sans quoi ils risquent de ne pas séduire, ils risquent d'être des gens peu intéressants, d'être bornés à leurs préoccupations professionnelles. Et de ce point de vue, ils feront fuir.
Donc si je vous suis bien, on peut dire qu'au 19e siècle, les vacances affirmaient les positions sociales. En quelque sorte, elles les exposaient, les proclamaient. Non seulement on n'échappait pas par les vacances à la situation sociale, mais d'une certaine façon, on y était encore plus profondément installé. Alors que l'aspiration contemporaine serait plutôt pour un temps, une forme d'évasion, de se sortir de cette manière qu'a la société toujours de vous assigner à une place spécifique.
Oui, le 19e siècle est marqué par le souci de la distinction. La fin du 20e, le début du 21e siècle sont marqués par la préoccupation d'une identité. Car dans ce deuxième cas, il y a une angoisse. Qui suis-je ?
L'angoisse est absente du 19e siècle. Quelle était-il ?
Ce n'est pas cette angoisse-là. Elle n'a pas cette intensité. La distinction d'un temps libre et par conséquent d'un temps qui n'est occupé par rien ne crée pas cette angoisse que nous connaissons aujourd'hui lorsque le temps n'est pas occupé. Nous sommes en ce sens marqués par une civilisation de l'activité.
Et de la vitesse, on y revient. Avec en revanche une permanence, c'est cette sorte d'inquiétude en face des effets d'un développement industriel au sens le plus large qui vient blesser, attaquer, affronter la nature. Et il y a toujours cette double tension que vous disiez en commençant, partir ailleurs ou revenir en arrière. et proclamer par ses vacances un attachement à une nature qu'on sent de partout dégradée, menacée.
Mais il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes davantage attirés par le futur que par le passé. La préoccupation que vous soulignez à l'égard de la nature, elle porte sur les générations à venir. Donc nous nous sentons plus ou moins responsables de ce que sera la planète ensuite. Il est vrai que les moyens techniques ont totalement révolutionné nos représentations du temps, mais ce temps du loisir n'est peut-être pas si éloigné du temps industriel que nous pourrions le penser, car il est destiné à produire, il est destiné à nous produire, à faire en sorte que celui qui prend du loisir, dans sa quête d'identité, se produise. Il n'est pas auparavant, il le sera ensuite. Et le souci de se produire en tant que quelqu'un qui a du goût pour le loisir, d'une certaine manière, entre dans cette préoccupation de la société industrielle de production. Elle n'en est pas tellement éloignée.
Du même coup, on retrouve probablement une explication de l'évolution des thèmes écologiques dont vous parliez, puisque autrefois, ils étaient marqués à droite. C'était l'attachement à un mythe, autrefois, l'âge d'or qui avait été abîmé, et que maintenant, comme vous le marquez, l'écologie se situe plutôt à gauche, pour être bref, c'est-à-dire plus tournée vers l'idée du mouvement, mais un mouvement qui pourra être contrôlé. Au fond, cette notion de vacances, nous le confirmons pour terminer, nous a emmené bien au-delà des bornes étroites du temps des loisirs. André Rauch, merci beaucoup. Votre livre consacré à ce sujet s'intitule « Vacances en France » de 1830 à nos jours. On peut se le procurer facilement dans la collection Pluriel, Hachette Littérature, et vient de ressortir en poche. Nous avons, chemin faisant, signalé l'intérêt des guides de voyage sous la direction d'Evelyne Cohen, un colloque y a été consacré, qui a été publié récemment par l'Université de Paris 7. Et puis, naturellement, il faut rendre hommage au maître de ces questions que j'avais l'année dernière à ce micro, avant nos vacances. Alain Corbin, L'avènement des loisirs, Flammarion, qui a été réédité dans la collection Champs. Et vous y avez, c'est un livre collectif, André Rauch contribué pour un article qui était consacré à
la nature, qui s'intitulait « La nature revisitée ».
Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages, les voyages, je sais comment passer. Sable doré et coquillages murmurent en dormeur du feuillage. Le vent efface mon sillage.
C'était Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, réalisation Patrick Molinier, prise de son Annick Brien, documentation Yaël Mandelbaum, Eve Bonivard, Nathalie Rouvillain et pour les archivina, Anne Trifunovic.
Les voyages, je veux des fruits mûrs, des fruits verts, des fleurs charnues, calices ouverts, des parfums fous, légers, pervers, la mer s'offre chaude, profonde, caressante, calme et féconde. Douce petite ronde.
Vous venez d'entendre une émission de Concordance des temps qui a été diffusée pour la première fois le 28 juillet 2001. Les vacances au 19e siècle avec André Rauch. Samedi prochain, dans Concordance des temps, nous parlerons du McCarthyisme, une fracture américaine, avec Hélène Arter.
Étoiles. revoir. Je vais dormir, mais au revoir. Je vais dormir, mais au revoir.